Vous êtes sur RTL.
Allô maman bobo.
RTL.
Allô maman bobo.
Ça va beaucoup mieux, l'hebdo, avec Michel Simès.
Chers amis des DM du dimanche matin, bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau numéro de l'Hebdo, l'émission santé grâce à laquelle vous allez bientôt pouvoir ouvrir votre cabinet pour exercer illégalement la médecine. Et d'ailleurs, je ne vous cache pas qu'il m'arrive de réfléchir à ce beau métier que j'exerce depuis quelques décennies et maintenant que je suis au crépuscule de ma carrière, que je vais bientôt poser ce stéthoscope dont je ne me sers jamais. Je me demande parfois si j'ai été un bon médecin. Mais c'est quoi un bon médecin ? On me demande souvent si je ne connaîtrais pas un bon dermato, un bon chirurgien, un bon gynéco. Ça me fait toujours rire quand je réponds « Ah non, désolé, mais si tu veux, j'en connais un mauvais ». La réaction de l'interlocuteur est variable selon la gravité de la situation, mais celui qui a donné la meilleure définition du bon médecin, c'est Diderot. Le meilleur médecin est celui après lequel on court sans jamais le trouver. Meilleur médecin, je ne sais pas, mais les meilleurs chroniqueurs sont là et bien là. Emma Stra, Christophe Brun et Patrice Romden, bonjour à tous les trois.
Bonjour Michel.
Bonjour à tous.
Avec l'évolution de la situation sanitaire, notre quotidien change et les salariés doivent souvent intégrer une nouvelle façon de travailler à la maison. On va parler de télétravail avec vous, Emma.
Peut-être que c'est votre cas, hein, un jour par semaine ou deux ou plus. De nombreuses entreprises optent pour le travail à distance. Et à la maison, c'est aux salariés qu'ils revient de l'organiser ce travail. Je vais vous donner quelques clés pour ne pas se laisser déborder et éviter le mélange des genres.
Patrice, dans la famille Jouvet, le 24 décembre 1887, on accueille le plus beau des cadeaux, un enfant.
Oui, pour Noël, il s'appellera Louis Jouvet. Le problème, c'est qu'il est bègue, ce qui ne l'empêchera pas de devenir l'un des plus grands comédiens de la première moitié du XXe siècle, comme quoi on peut vaincre le bégaiement.
Même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps. Même en volant, je n'aurai pas le temps, pas le temps.
Très belle chanson de Michel Fugain. La semaine dernière, c'était France Gall, maintenant c'est Michel Fugain. Et
j'ai
il
décidé,
est très national.
Voilà, variété française. Voilà, exactement. Et c'est une belle chanson, effectivement. Je n'aurai pas le temps dans cette jolie version accompagnée des chœurs symphoniques de Paris. Mais comment ça, vous n'avez pas le temps ? Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'organisation.
Il y a du monde dans cette tête. Hein.
J'ai même presque envie de dire de logistique. On va voir comment s'organiser pour caser ses séances de sport dans son agenda de la semaine. Parce que je les entends, les excuses. J'ai pas le temps, je suis débordé, je travaille, moi. Mais moi aussi, je travaille. Et pourtant, j'arrive à bouger mon petit corps gracile dans ma semaine et presque tous les jours, malgré mon agenda de ministre fraîchement nommé et qui n'a pas le temps.
Je n'aurai pas le temps.
RTL.
Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
Alors Emma, il y a eu le télétravail pour tous les emplois qui s'y prêtaient pendant le confinement. Et puis vous avez peut-être pris le chemin du bureau. Mais vu l'évolution de la situation sanitaire, de nombreuses entreprises organisent à nouveau le travail à distance pour le plus grand soulagement des salariés.
Ah oui, différents sondages le montrent. Les salariés l'ont apprécié pendant le confinement et ils en veulent plus. On zappe les temps de transport, on est plus serein d'éviter l'open space. Et puis, à la maison, on se dit qu'on peut peut-être gratter un peu sur la pause café, en profiter pour lancer une machine, passer un coup de fil perso. C'est tentant quand même. Hein.
Oui, alors sauf que dans télétravail, il y a quand même travail.
Il y a télé aussi.
Et ça n'a rien à voir avec l'idée de s'avachir devant pour s'enfiler des séries.
Non, et pour éviter d'être tenté, il faut mieux s'organiser. Alors, le plus simple, c'est de se caler sur les mêmes horaires que ceux de l'entreprise. Si j'arrive au bureau à 9h, je suis prêt à me mettre au travail à la même heure, à la maison. Ce qui veut donc dire qu'en amont, j'ai pris mon petit-déj, ma douche, j'ai les dents propres, je suis habillée. Parce que l'idée de rester en pyjama, ça va avec celle de traîner sur le canapé. Hein. C'est pas très propice au travail.
En pilou-pilou.
c'est un contrat de confiance, le télétravail. Donc, on se tient à disposition de l'employeur sur les heures de bureau. Après, si vous voulez profiter de la pause déjeuner pour lancer une machine ou faire une course, libre à vous. Mais à l'heure prévue, on se remet au boulot.
Moi, je vous ai préparé un petit quiz sur ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire en matière de télétravail. Alors, à votre avis, est-ce que je peux choisir mes jours de travail à distance ?
Non, c'est une convention, c'est un accord.
Oui, avec l'employeur. Hein.
Ouais, je dirais non, je ne peux pas choisir.
Pas choisir, c'est l'employeur qui détermine ça, même s'il peut y avoir un dialogue avec lui au préalable. Est-ce que je suis couvert si j'ai un accident pendant mon télétravail ?
Ouais, si je laisse tomber la télécommande de la télévision sur mon
entrée. Ce serait malin, mais oui, c'est ça. Est-ce que ça s'y prête ?
Si c'est pendant les heures de travail.
C'est pas facile à prouver, en fait.
La réponse est oui, c'est prévu par le code du travail. Est-ce que je suis obligé d'utiliser mon ordinateur personnel ?
J'en ai pas forcément d'ailleurs.
J'en ai pas forcément. Donc non, vous n'êtes pas obligé. Au contraire même, on va dire que l'employeur, s'il impose le télétravail, il doit vous fournir un ordinateur.
Alors, il y a une histoire d'organisation quand même. Hein, et puis, c'est pas facile de se retrouver tout seul, toujours.
Non, surtout si on a un souci, une question, un blocage. En entreprise, c'est simple, on se croise à la machine à café, on peut aller poser cette question au collègue qui a installé deux bureaux plus loin. À la maison, ce sera le mail, le visio ou le coup de fil. C'est ce que vous voulez, mais il faut absolument trouver le moyen de garder le contact avec son chef ou son équipe.
Alors, il y a ceux qui ont des journées de travail ponctuées par les réunions. Alors, dans ce cas-là, l'agenda se remplit tout seul. Pour les autres, qu'est-ce qu'on conseille ? Vous connaissez bien le travail à la maison, vous, hein, puisque vous le pratiquez depuis une quarantaine d'années maintenant.
Pas loin. Et j'ai remarqué qu'une...
Elle a commencé tard,
effectivement. Écoutez, ma grande expérience me dit qu'une journée efficace et satisfaisante, c'est une journée anticipée, planifiée. La veille au soir ou le matin, en face de votre café, vous organisez des plages horaires avec vous-même. Moi, je me donne, par exemple, la matinée pour faire des recherches et rédiger l'ossature d'une chronique, caler une interview par téléphone. Et l'après-midi, je rédige, par exemple, la chronique. Ça fait qu'à la fin de la journée, on a rempli ses objectifs et c'est quand même super satisfaisant.
Alors ça, c'est sur le fond. Pour la forme, comment vous vous organisez ? On a bien compris que vous ne restiez pas en pyjama, mais on n'a pas votre bureau. Tout le monde n'a pas un bureau prêt à l'emploi à la maison.
Surtout si on travaille habituellement en entreprise. Alors l'idéal, c'est de se trouver un endroit au calme. Le top, c'est une pièce isolée, mais sinon, il faut quand même au moins un coin tranquille, là où on ne sera pas dérangé par les autres occupants qui vivent ou qui passent à la maison. Il y a encore un truc qui change du bureau, c'est l'équipement. Pour éviter de vous faire mal, notamment au cou ou au dos, si vous travaillez beaucoup sur écran, il faut que vous soyez installé de manière à ce que vos deux pieds touche le sol et que le haut de votre écran d'ordinateur soit à la hauteur de vos yeux. Un repère, c'est la nuque et le dos droit et les coudes, le bassin et les genoux à 90 degrés. Moi, je travaille depuis longtemps à la maison et à force de rester assise, j'ai eu des douleurs au cervical et au dos. Et depuis, je suis assise, vous voyez, sur les gros ballons de pilates là.
Les Swiss balls.
Les Swiss balls.
C'est les ballons gonflables.
Voilà. Moi, ça m'a changé la vie. Et
ça vous a changé même physiquement.
Ah oui. Je ne vous demanderai pas d'aller plus loin. Voilà, il faut aussi penser aux pauses hein, pour se détendre et pour boire de l'eau, par exemple, toutes les deux heures. Et puis surtout, il faut savoir débrancher. À la fin de la journée, on éteint l'ordi, on ferme la boutique, même si c'est la pièce d'à côté.
Et si je peux me permettre, puisqu'on en est là, et puisque vous avez gagné du temps sur vos trajets quotidiens, ce serait le bon moment pour aller faire une petite séance de sport. Vous parliez de la pause à l'heure du déjeuner tout à l'heure, mais très bien, c'est le bon moment aussi pour faire un footing, faire du vélo, faire ce que vous voulez, mais pour essayer de bouger un petit peu avant de reprendre en début d'après-midi.
Voilà, évidemment, il faut que votre équipe connaisse vos horaires, donc en amont vous échangez là-dessus pour vous adapter les uns aux autres si besoin. Et pour résumer, ce qu'il faut, c'est de l'organisation, un peu de discipline et de la communication.
On va prendre en ligne Grégoire alias Major Mouvement. Bonjour.
Bonjour Michel.
Kinésithérapeute et professeur en thérapie manuelle. Et d'ailleurs, vous allez sortir le 23 septembre, je crois, un livre sur les 10 clés pour un corps en bonne santé. C'est un guide pratique ?
C'est un guide pratique, un peu de théorie et des explications très simples qui correspondent à notre quotidien pour répondre à un maximum de questions inspirées clairement de ma pratique. Hein, je suis kiné depuis maintenant 10 ans, mais avec la sauce des dernières littératures scientifiques que je vais vous exposer un peu aujourd'hui.
D'accord. Édition Marabout et le titre du livre ?
10 clés pour un corps en bonne santé de Major Mouvement.
Alors justement, est-ce qu'avec ce télétravail, vous avez des nouveaux patients, des gens ? Parce qu'on se dit que quand on est chez soi, effectivement, on peut se mettre d'abord sur une chaise qui n'est pas adaptée, un bureau qui n'est pas adapté à la hauteur, l'ordinateur non plus, mettre les pieds sur la table, enfin bref, se voûter en travaillant. Est-ce que vous allez finir par avoir de nouveaux patients ?
Alors oui et non, Michel. En fait, je suis entièrement d'accord avec vous. Respectez un maximum les deux pieds au sol, les genoux à 90, les hanches à 90, le poste d'ordinateur à hauteur des yeux, parce que ce serait la position assise la moins coûteuse en énergie. Et en fait, quand on commence à vouloir s'asseoir sur le canapé, l'ordinateur sur la table basse, complètement courbé en deux, en fait, c'est vite fatigant et c'est toujours les mêmes structures, les trapèzes au niveau des cervicales ou les muscles lombaires au niveau du bas de dos, qui vont travailler tout au long de la journée. Et en fait, le corps, il n'aime pas rester toujours dans la même position. Et si on doit résumer la journée en télétravail, c'est je me réveille, je prends mon petit-déj, je suis assis, je suis sur mon écran de téléphone pour regarder mes dernières notifs et des comptes Instagram. Ensuite, je vais commencer à travailler. Je suis sur ma chaise de travail, à part si de temps en temps, je me lève pour aller faire une lessive de 9h à midi. Je déjeune, je suis assis. Je retourne au travail, je suis assis. À la fin de la journée, je me détends un peu devant la télé, je suis assis. Et le soir, je me couche, la tête complètement cassée en deux dans mon lit pour regarder une série sur mon écran. Et en fait, si on fait tout le calcul, on comprend que le problème n'est pas tellement lié à la position, mais plutôt au fait d'être complètement inactif.
Qu'on ne bouge pas. Exactement. Qu'on ne bouge pas, ouais. Et Emma.
Mais ça veut dire du coup que si je passe de ma table à mon canapé, à poser mon ordi sur le bar pendant que, je sais pas, mon riz cuit dans la cuisine, ça c'est une bonne optique de bouger comme ça dans la maison ?
Oui, de varier ainsi. En fait, les contraintes mécaniques, hein, on est fait de mécanique, d'os, de ligaments et tout, et bien c'est comme ça qu'on va mieux répartir et donc favoriser l'activation globale de notre dos. Alors que le vrai problème, c'est qu'on reste ici. L'idéal, comme vous l'avez dit, c'est en fait de prendre le temps de s'imposer une séance de sport ou d'activité physique. Pour faire court, l'activité physique, c'est je vais faire de la marche, le sport, c'est je vais courir. Eh bien, ça, c'est vraiment l'idéal.
Oui, je rajouterai d'ailleurs un petit truc qui marche pas mal, et si votre travail s'y prête, c'est que pour vos coups de fil, vous profitez de mettre votre téléphone dans votre poche, vous mettez vos écouteurs, et puis vous marchez dans la maison en passant votre coup de fil, en fait. Voilà, ou dans le jardin, sur la terrasse, etc., ou dehors, pourquoi pas. Mais...
Exactement.
Voilà.
Et même souvent, c'est tout bête, mais ne serait-ce que le fait de marcher, de bouger, on va aussi avoir une autre vision des choses. Et peut-être que parfois, on peut débloquer, on peut penser le problème professionnel, hein, différemment.
Merci beaucoup. Alors, Majeur Mouvement, vous êtes aussi sur le net, hein, et vous donner de bons conseils sur le web.
Exactement, c'est ce que je fais. Je donne par exemple 10 mouvements à faire sur sa chaise, 10 mouvements à faire le matin au réveil, 10 mouvements à faire le soir avant de se coucher, puis plein de connaissances sur plus grandes pathologies, les tendinites, la hernie discale, tout ça. Mon métier sur le web, oui.
Tout ça sur Majeur Mouvement, et puis je rappelle la sortie de votre livre le 23 septembre, les 10 clés pour un corps en bonne santé chez Marabout. Merci beaucoup Grégoire pour vos explications.
Avec plaisir.
Patrice.
Et puisqu'on a parlé de télétravail, la bonne position de l'ordinateur lorsqu'on télétravaille, c'est perpendiculaire à la source de lumière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la lumière arrive sur l'écran, il ne faut pas non plus qu'elle soit derrière l'écran, mais si elle arrive sur le côté, là, vous êtes bien positionné par rapport à l'éclairage.
Oh là là, il est bon.
Je le regarde avec une admiration.
Ouais. Et presque du désir, je vous vois.
Oui, je suis très limite.
Ça commence à me gêner. Faites quoi après l'émission ?
Rien, on se retrouve dans quelques instants.
RTL,
ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo. RTL,
ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
Monsieur, son valet de chambre, un nommé Durin, lui a dérobé par bêtise une épingle de cravate de valeur.
Louis Jouvet, diction parfaite, un phrasé tout en lenteur, une voix identifiable entre mille. On a du mal, Patrice, à imaginer qu'on vient d'entendre un bègue.
Et en fait, Louis Jouvet était parti pour être préparateur en pharmacie. Mais à l'époque, il comprend vite qu'il aura du mal à passer sa journée entouré de bocaux, d'autant qu'il ne jure que par le théâtre. Il se présente donc au Conservatoire National d'Art Dramatique. 3 tentatives, 3 échecs, un triple coup dur, reconnaît alors Louis Jouvet. Il faut dire que le jury, composé de grands sociétaires de la Comédie Française et dont le jugement ne saurait souffrir la moindre contestation, a un argument massu. Louis Jouvet est bègue et on ne va quand même pas lui ouvrir les portes de notre noble institution.
Ah oui, d'autant plus que c'est pas non plus un mannequin, c'est pas un Miss Univers. Il ne pouvait pas jouer sur son physique.
Mystère Univers. Hein,
ouais, j'ai dit Miss, c'est Mystère.
Non, mais voilà, il a quand même son petit charme, il a l'œil qui pétille, non ?
Ouais, mais il est maigre, il a une denture, une denture chevaline, hein, et il traîne une silhouette dégingandée qui n'en fait pas franchement le jeune premier dont rêve le pays, c'est vrai. D'ailleurs, plus tard, hein, bien plus tard, la critique le surnommera le grand cadavre bègue.
Bon alors, ça se passe donc assez mal avec le jury de la Comédie Française. Jouvet dit même qu'il a affaire à de vieilles badernes, des vieux mots, j'aime bien ces vieux mots, et des têtes creuses.
Ce en quoi il a raison. En tout cas, la suite va lui donner raison. Jouvet va y arriver pour deux raisons. Alors d'abord, la surmotivation. À 26 ans, il se fait engager au théâtre du Vieux Colombier comme régisseur, et une fois qu'il a mis le pied dans la porte, eh bien il grimpe. De régisseur, il devient décorateur. De décorateur, il devient assistant. Et d'assistant, il devient comédien.
Voilà, il est motivé, mais il est quand même bègue.
Et oui, ce qui m'amène à la seconde raison de sa réussite, son attirance pour la scène, en fait, a des vertus curatives. Pourquoi le bègue bégaye-t-il ? Le bègue bégaye parce qu'il perd l'objet de son discours. Dès lors qu'il s'adonne à sa passion, qu'il se concentre sur de longues tirades, eh bien Jouvet se débarrasse de son handicap. Et c'est comme ça que Jouvet incarnera Dr Nock, Sganarelle, Scapin, Tartuffe, Don Juan. Il a tout joué, il est devenu la référence avant de mettre en scène, de diriger le théâtre de la télé et de finir avec la Légion d'honneur.
Il faut aussi bosser dur, hein, bûcher dur hein, quand t'es pour avoir une telle carrière.
Alors toute sa vie, Louis Jouvet a travaillé son élocution hachée. Il a adopté ce qu'on appelle un patron rythmique.
Moi, je connaissais le patron tyrannique, mais rythmique.
Vous connaissiez le patronymique.
Aussi, là, patron rythmique, non, alors
J'explique. Plutôt, j'essaye d'expliquer. Alors, en fait, chaque groupe de souffle, c'est-à-dire chaque groupe de syllabes précédé et suivi d'une pause, commence par une série de syllabes brèves, suivie d'une série de syllabes plus complexes, suivie d'une nouvelle série de syllabes brèves. Je vais essayer de vous le faire. Je commence par des syllabes brèves avant de prendre le temps et de finir rapidement. Voilà, je ne sais pas si je l'ai bien fait, mais en même temps,
on
si
dirait
j'étais
Jouvet,
Jouvet
on dirait
ça serait. Hein.
C'est Patrice Jouvet, c'est Miromden. C'est Joumden.
Alors, il en résulte un ton monocorde et syncopé, un phrasé tout en lenteur qui fera le style de Louis Jouvet avant de faire sa fortune parce que le public a adhéré.
En fait, sur scène, Louis Jouvet, c'est un autre homme, un homme qui bégaye pas. Du coup, je me demandais s'il aurait pu jouer lui-même un bègue.
Alors, justement, il l'a fait. La seule fois de sa carrière où il n'a pas maîtrisé son bégaiement, eh bien, ce fut volontairement. En 1936, il tourne Mister Flo. Alors, Louis Jouvet y interprète un cambrioleur de haut vol qui masque son identité sous les traits d'un domestique. Et le domestique, évidemment, il est bègue. Donc, c'est ce qu'on appelle un rôle de composition.
Alors, Louis Jouvet fait partie du centième de la population française qui est touchée par le bégaiement. Est-ce qu'on sait d'où ça vient, Emma?
Alors, on sait que ça touche la parole, mais que c'est plutôt un trouble de la communication. C'est-à-dire qu'une personne peut très bien chanter normalement, dire son texte au théâtre normalement, et se mettre à bégayer quand elle s'adresse à quelqu'un. D'où ça vient? Il y a trois pistes, trois réponses. D'abord, un terrain familial. D'après l'association Parole Bégaiement, un parent bègue a trois fois plus de risques d'avoir un enfant qui bégaye. Terrain familial, donc, mais pas seulement. Deuxième hypothèse sur laquelle se concentre la recherche en ce moment, c'est la piste neurologique. Et puis, enfin, il y a tout un tas de facteurs psychologiques et émotionnels qui peuvent déclencher le bégaiement.
On va en parler avec Véronique Aumont-Boucan. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes orthophoniste spécialisée dans la prise en charge des troubles de ce qu'on appelle la fluence verbale. Vous avez publié un livre, Aider son enfant à parler, à communiquer, aux éditions De Bock. Parmi les hypothèses que vient de dire Emma, quelle est celle qui a le plus le vent en poupe en ce moment? C'est la piste neurologique?
Alors effectivement, il y a beaucoup de chercheurs en ce moment qui cherchent au niveau neurologique, au niveau génétique, et aussi un peu au niveau linguistique. Et je dirais que ce qui se passe au niveau psychologique, ce sont des conduites réactionnelles au trouble. Mais le trouble, il est là et ce n'est pas n'importe quel enfant qui va commencer à bégayer. Il y a une grande recherche aux États-Unis qui a observé le cerveau, qui a passé des scanners aux enfants. Et on s'est aperçu que normalement, sur 5 enfants qui bégayent, il y en a 4 qui récupèrent. Et en fait, l'enfant qui ne récupère pas n'a pas le même cerveau. Au niveau de la matière blanche, la matière grise, il y a vraiment des différences notables.
D'accord, il y a des zones qui sont moins développées ou développées différemment. Christophe,
est-ce qu'on peut dire que l'arme du bègue, c'est la concentration? Je vous dis ça parce que je connais quelqu'un qui est opérateur radio dans la Marine nationale qui est bègue et qui, quand il est devant son poste, son casque sur la tête, son micro devant sa bouche, il parle 3 langues, anglais, espagnol, français, il ne bégaye plus du tout. Alors est-ce que c'est l'effet Jouvet parce qu'il est dans son truc, c'est son métier, il ne veut pas se rater, ou est-ce que c'est parce qu'il est concentré, qu'il a un rôle très important sur ces gros bateaux qui fait qu'à ce moment-là, il bégaye pas, quoi.
C'est un peu...
Et alors, pour le coup, il est vraiment... Mais il n'est pas qu'un petit peu bègue, hein. Très bègue.
Oui,
il faut laisser répondre la dame.
Hein. Oui, j'essaie d'être complet.
C'est un petit peu tout, en fait. Quand on joue un rôle, souvent, on ne bégaye pas. Enfin, il y a des gens qui bégayent, mais des gens qui ne bégayent pas, comme Louis Jouvet. Mais comme vous l'avez très bien dit, Louis Jouvet, il s'est entraîné. Donc, il avait un phrasé particulier. Et il avait déjà compris plein de choses, en fait. C'est-à-dire comment ralentir. Effectivement, c'est des gens qui ne peuvent pas tout coordonner parce que c'est compliqué de parler et ils ne peuvent pas le faire à la même vitesse que les autres, en gros. Et donc, effectivement, d'avoir ce phrasé, ça lui permettait sûrement de ne pas bégayer quand il jouait. C'est peut-être aussi, c'est le cas de la personne qui parle au micro, et aussi il y a plein d'autres choses qui rentrent en jeu.
Patrice,
est-ce qu'il y a un âge auquel les enfants, je pense aux plus petits, bégayent systématiquement? C'est-à-dire qu'il y a une époque de leur vie où il y a plein de choses qui se bousculent dans leur tête, ils veulent parler, et finalement, ils finissent par bégayer un petit peu, et ça inquiète parfois les parents. C'est quoi cet âge?
Oui, au moment du développement du langage, il y a beaucoup d'enfants qui se mettent à bégayer. On dit que dans la population, il y aurait 8% à 11% des enfants qui se mettent à bégayer à un moment donné. Mais ce n'est pas forcément un bégaiement durable. C'est effectivement lié à des étapes de développement du langage. Quand le langage devient trop complexe, ça peut faire bégayer. Mais il y a certains enfants parmi ceux-là qui vont garder leur bégaiement. Et eux, ils vont avoir un bégaiement persistant.
Il faut s'inquiéter à partir de quel âge si ça persiste?
Il faut toujours mieux avoir des conseils. Le plus tôt on a des conseils, le mieux on réagit, le moins ça entraîne de troubles psychiques chez l'enfant. Et le plus on peut aider. Donc, consulter pour un bilan, c'est toujours intéressant, ou lire le livre. En fait, on a écrit ce livre pour des parents qui s'inquiétaient vraiment et qui ne savaient pas comment réagir. Donc, par exemple, ça permet d'avoir des pistes très pratiques et de comprendre ce qui se passe. Et puis après, effectivement, si le bégaiement perdure plus de 6 mois à 1 an et que ça s'aggrave, bien sûr qu'il faut consulter et qu'il faut faire un traitement.
Merci beaucoup. Eh ben, on va redonner le titre de ce livre pour tous les parents qui seraient inquiets parce que leur enfant commence à bégayer. Aider son enfant à parler et communiquer. Véronique Aumont, Boucan, orthophoniste aux éditions de Boc. Et bien sûr, il faut consulter, passer par le médecin traitant ou le pédiatre si vous en avez un, mais il ne faut pas laisser traîner les choses. Merci beaucoup Madame Aumont-Boucan. Merci. Les amis, alors on a un petit peu de temps là pour Brève, Emma ou Christophe.
Oui. Je suis tombé sur un truc, c'était ce matin, c'est pas vieux. Le monsieur dit au docteur, ma femme a passé une radio, le radiologue m'a dit qu'il avait peur qu'elle se déclassifie.
Déclassifie.
Au lieu de décalcifie.
Emma.
Est-ce que vous savez pourquoi on parle de dents de lait ? Rien à voir avec le fenouil.
Dents de lait, parce que ça fait référence aux enfants.
Vous n'en savez rien.
Le problème, c'est que quand on ne sait pas, il faut dire je ne sais pas.
Oui, mais je tente.
C'est à l'école où vous leviez la main, même quand on n'avait pas posé la question.
5 x 4, 18.
Vite, il y a la musique, il faut que je me dépêche. Il semblerait qu'on les appelle comme ça parce qu'elles apparaissent généralement au moment où la mère arrête d'allaiter son enfant.
Absolument.
Peut-être qu'elle a peur d'être mordue.
C'est pas ce que j'allais dire.
Absolument, je le savais. Une pause et on se retrouve.
RTL.
Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo. Michel Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux. L'hebdo.
Et c'est la partie 3 tant attendue par toute l'équipe, la partie récré de l'hebdo. Et je vous rappelle que la semaine dernière, nous avons lancé un nouveau jeu. C'est Alain qui a gagné une montre RTL. Et aujourd'hui, nous prenons en ligne Gaëlle du Val d'Oise. Bonjour Gaëlle.
Bonjour.
Alors Gaëlle, merci de participer à ce jeu pour la deuxième fois. Je vais vous poser une question liée à la médecine. Emma, Christophe et Patrice vont donner leurs réponses. Deux réponses sont fantaisistes, une est bonne, à charge de trouver laquelle si vous voulez qu'on vous envoie une montre RTL. Je rappelle que pour l'instant c'est le cadeau qu'on va donner, mais que pour celles ou ceux qui vont nous appeler plus tard, ce sera peut-être un lifting, on va voir. On est en train de... Vous n'en avez pas besoin hein, Gaëlle, ça j'en suis sûr.
Non,
prenez ça bien.
Bien évidemment. La question Gaëlle concerne les hypochondriaques, ces patients qui se sentent très mal quand ça va très bien et qui savent que ça y ira encore plus mal quand ça ira mieux. Bref, les gens qui se croient perpétuellement malades alors qu'ils sont en bonne santé, d'où vient le terme hypochondriaque, la version de Patrice ?
Alors c'est facile, hein, Gaël. Hypochondriaque vient du nom d'Hippocrate, le patron des médecins. Vous avez entendu parler du serment d'Hippocrate, hein ? C'est un serment que prêtent tous les médecins. Hypochondriaque vient de là. C'est tellement évident que je me demande pourquoi on pose la question d'ailleurs.
C'est le début du mot alors. C'est Hippocrate, voilà, donc hypochondriaque. Voilà. Très bien, version d'Emma.
Tout remonte à la Grèce antique. Les gens qui se plaignaient du ventre se croyaient atteints d'une maladie touchant les hypochondres. Les hypochondres, c'est une partie de l'intestin située sous les côtes et contenant essentiellement le foie, la vésicule biliaire, et le tube digestif. C'est de là que vient le mot hypochondriaque.
T'as qu'à croire.
Très bien, et nous finissons par la version de Christophe. Gaëlle, ne vous laissez pas influencer par...
Gaëlle, vous avez choisi le meilleur pour la fin et la vérité pour la fin. Donc c'est un terme initialement employé par la vétérinaire qui fait référence à l'hippopotame, l'hippopotame, de tous les animaux, c'est celui qui collectionne le plus de virus et de bactéries. La seule différence, c'est qu'il est porteur sain, bon, il le sait pas, et il ne tombe pas malade, ou très rarement. Voilà, c'est ça l'origine du mot hypochondriaque.
Gaëlle, je suis atterré. Mais je vais vous laisser répondre. Vous avez 3 versions, Gaëlle. Celle de version de Patrice qui dit que c'est parce qu'Hippocrate s'appelait Hippo qu'on a dit que c'était hypochondriaque. La version d'Emma qui nous dit que c'est parce qu'il y a des hypochondres qu'on a appelé ça hypochondriaque, donc sur les côtés. Et Christophe qui nous explique que ça vient d'hippopotame.
Alors j'hésite très sincèrement avec la version hypopotame, mais je pense que je vais prendre la version d'Emma.
La version d'Emma sur les hypochondres. Alors Emma.
Quelle grande idée.
Ouais, c'est ça.
Bravo.
Ouais. Bravo, bravo sous les applaudissements. Ouais. Alors, je vais vous préciser une chose, Emma, parce que votre réponse était très juste, mais pas complètement. Ah. Les hypochondres, ça n'est pas une partie de l'intestin, mais c'est la partie du corps. C'est-à-dire que c'est le côté. Effectivement, il y a l'hypochondre droit qui se trouve où se trouve la vésicule biliaire et le foie, et nous avons l'hypochondre gauche qui est de l'autre côté. Donc, c'est plus une partie du corps plutôt qu'une partie des intestins.
Mais c'est un terme que vous utilisez encore en médecine?
Hypochondre,
ouais.
Oui, bien sûr.
Ah, ok.
Oui, oui, quand quelqu'un a un problème, une douleur dans l'hypochondre droit, par exemple, on appuie dessus pour voir s'il y a un problème de vésicule biliaire ou de choses comme ça. Mais c'est pas désuet. C'est un vrai mot.
Je croyais avoir une vraie chance avec mon hippocrate, mais aussi. C'est vrai que l'orthographe est différente. C'est-à-dire hypochondre, c'est H-Y-P-O. Condre et Hippocrate, c'est H-I-2-P-O, crate, etc.
Ouais. Vous travaillez dans quoi, Gaël?
Je suis médecin.
Dans un service de paye.
Un service de?
De paye, je fais la paye des gens.
Vous êtes à la paye des gens, d'accord. Donc vous n'avez rien à voir avec la santé.
Voulez-vous mon adresse pour m'envoyer un chèque?
Eh bien, on va vous envoyer une montre RTL, Gaël. Et merci mille fois d'avoir participé à ce jeu qui... dont le but est quand même de nous apprendre des choses. Il y a deux trucs qui sont n'importe quoi, mais là, vous avez vu que Emma, la semaine dernière, c'était Patrice qui avait raison, là, c'est Emma. On va pas le faire simple pour que ce soit forcément vous ou Christophe la semaine prochaine,
parce
que ce
serait
trop facile.
Pour me rattraper, j'ai un mot. Qu'est-ce que la calculie?
La calculie.
Bah. Il n'a pas calculé l'addition.
C'est l'incapacité à calculer des choses.
La calculie. Alors, non, c'est pas la capacité à. C'est pas lié au rein, les calculs.
Non, c'est une pathologie très psychologique. Ah, c'est pour les patients qui ne parviennent pas à se servir des chiffres et des nombres. Et qui n'arrivent pas à calculer, qui ont un blocage dès qu'il y a une notion mathématique avec les chiffres et les nombres.
Attends, voilà. Incapacité à calculer, j'ai bon.
Eh ben, c'est pas mal.
Ah oui, d'accord.
C'est pas mal. Ça fait deux fois que Emma a bon. Ça suffit maintenant.
Qui est son quota pour l'année? On arrête maintenant. Info Intox, bien sûr, il suffit de demander.
Bah,
je tourne la page et j'y suis.
Vous ne les avez pas en tête?
Comment?
Vous ne les connaissez pas par cœur?
Non, je les note, là, je les oublie après sinon. Alors, alcool et médicaments font plus d'effets dans l'avion. Info ou Intox?
Enfin, de mauvais effets, donc. Oui, d'accord.
Moi, je dirais oui.
Moi aussi,
parce qu'on boit plus.
Le petit whisky, là.
Oui, on a tous expérimenté le truc. C'est Intox, mais, attendez, stricto sensu, ils ne font pas plus d'effets. Si vous avez observé une différence, c'est parce que les effets habituels s'ajoutent à ceux produits par l'altitude. Le problème, c'est l'hypoxie, c'est-à-dire le déficit partiel en oxygène lié à l'altitude. Donc, il n'y a pas plus d'effets, mais ça s'ajoute aux effets de l'altitude.
C'est sûr. On a le temps ou non? On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, donc on va passer une petite page de pub et on se retrouve.
Michel Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux. L'hebdo. RTL,
ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
Et c'est la partie activité physique avec le 3C, coach Cricri. Christophe, Woody Allen disait la réponse est oui, mais quelle était la question?
Ça, c'est un bel acte manqué, Michel. La question était comment caser sa séance de sport dans la semaine au cours de laquelle on travaille, on s'occupe de la maison, des enfants, de la famille, des amis.
Et on a tôt fait de dire qu'on n'a vraiment pas le temps de faire du sport, ou tout au moins on a l'impression qu'on n'a pas le temps de faire du sport. Est-ce que vous savez combien de Français déclarent faire du sport au moins une fois par semaine?
Tout le monde, sauf que personne n'en fait. Enfin, j'exagère.
Non,
pas tout le monde,
hein,
pas tout le monde. Ouais. Plus de la moitié des Français feraient du sport à cette fréquence. Pour 12% d'entre eux, l'activité physique serait même quotidienne. C'est une étude d'Aris Interactive qui le dit.
Merci Emma. Et alors, quand on sait que ces chiffres viennent d'une grande spécialiste du sport, on peut que se féliciter.
Merci.
Donc, chères auditrices, chers auditeurs, entrons dans le vif du sujet pour caser notre sport dans votre semaine. D'abord, il faut faire un exercice tout bête. Vous vous mettez devant votre agenda et vous traquez les heures, les moments disponibles. Si, cherchez bien. Il y a forcément des moments dans la semaine, au moins un jour sur deux dans lesquels vous pourriez caser une séance de sport. Alors éliminez lundi, mercredi et vendredi et concentrez-vous sur mardi et jeudi et les deux jours du week-end. Comme ça fait 4 jours sur 7, c'est pas mal. Donc le mardi et le jeudi, le matin tôt, pourquoi pas? Regardez, vous avez par exemple l'habitude de vous réveiller très tôt, mais vous n'attaquez votre journée que vers 9h, ça vous laisse du temps pour caser une activité avant le petit-déj, la douche et le départ au boulot. Le matin, c'est idéal pour courir ou même marcher ou nager, 45 minutes à 1h, ce serait très bien. L'avantage, vous vous levez, vous enfilez un jogging et des baskets et vous y allez le ventre vide, radical d'ailleurs, pour éliminer les mauvaises graisses.
Alors oui, bouger le ventre vide, là, ça favorise ce qu'on appelle la lipolyse. La lipolyse, ça vient du grec lipo, qui veut dire Grèce, hein,
et Lise. L'apostrophe H-Y-P-O.
Y-P-O. Et Lise, qui veut dire brûler. C'est donc le mécanisme mis en œuvre par l'organisme pour dégrader les graisses afin de les rendre absorbables et utilisables comme énergie. On résume tout ça par l'expression brûler les graisses.
Quelle culture.
Il sait de quoi il parle. Alors revenons-en à nos moutons. Le mardi et le jeudi, l'heure du déjeuner, pourquoi pas aussi, c'est pratique, c'est la coupure. Donc là aussi, cochez cette case dans votre agenda et par exemple, repérez les cours disponibles à la salle de sport du coin et lancez-vous. Vous ne perdez rien à essayer, vous n'êtes pas à l'abri de trouver ça bien et donc de vous accrocher.
Et moi j'aime bien faire du sport le soir par exemple.
Eh bien cochez la case fin de journée sur ces deux jours de la semaine et entre la fin du travail et le retour à la maison, trouvez-vous une activité comme le squat ou la natation. Rien de tel pour laisser derrière vous les tracas de la journée, les problèmes avec les collègues.
Le squat.
Non, t'as dit le squash. Il faut dire le squash.
Le squash, d'accord.
Confondre avec les quetch.
Donc le squash, c'est radical pour laisser derrière vous les tracas de la journée, les problèmes avec les collègues, les réunions à rallonge ou les clients pénibles. Et pensez à deux sur cette organisation. Je veux dire, organisez-vous aussi avec votre moitié quand un est au sport, l'autre assure à la maison et inversement. Sans compter que le week-end, puisqu'on part du principe où vous allez vous bouger, samedi et dimanche, en plus de mardi et jeudi, vous pouvez consacrer un moment le matin, certainement, voire l'après-midi pour bouger et faire du sport en famille même.
Voilà, le piège du week-end, hein, c'est qu'on a tellement de temps que finalement on peut se trouver embarqué dans les trucs et passer à côté du sport sans qu'on s'en rende vraiment
compte. Alors ça, c'est tout à fait vrai. Je dirais que sur les deux jours du week-end, il faut être encore plus rigide que la semaine. Vous verrez que le temps avançant, il vous paraîtra bizarre de passer un samedi ou un dimanche sans faire de sport. Et je le répète, c'est un excellent moment pour pratiquer à deux ou en famille. Par exemple, on met les deux bambins sur leur vélo et on va courir avec eux en forêt avant le déjeuner. Au-delà du bien que ça fait au corps, ce sera aussi l'occasion de vivre des expériences avec l'être aimé et ou avec les enfants. Sans compter qu'avec ça, l'après-midi, en plus, ils sont plus calmes.
Ils seront plus calmes et là où je vous rejoins, c'est qu'il faut impérativement, vous l'avez dit à plusieurs reprises dans votre chronique, cocher sur son agenda. Il faut bloquer des moments parce que si vous ne les bloquez pas, vous aurez toujours quelque chose à faire à la place où vous mettrez un rendez-vous.
Il faut se donner rendez-vous avec soi-même.
Exactement, voilà. Vous aurez la flemme de le faire en vous disant je ferai ça demain. Non, il faut cocher ça au début de la semaine en se disant voilà, à ce moment-là, je vais pouvoir faire du sport et on peut faire du squat. Par exemple, qui est un très bon sport. Je vous rappelle que cette expression vient de quelqu'un qui nous a quand même dit un jour...
Le revers de la pièce obligatoire
qui est quand même...
C'est ma croix.
Je croyais que l'été était passé par là.
Il pensait que l'été avait coulé là-dessus.
On a retrouvé le repère de la pièce obligatoire. Je vous rappelle que nous sommes partenaires avec le magazine Dr Good qui est en kiosque. Il y a un dossier... sur ce numéro pour un dossier anti-âge, hein, pour essayer d'évaluer votre âge physiologique et de vieillir le mieux possible. Il y a aussi un test pour voir si vous avez un problème avec vos gencives, les maladies parodontales qui touchent les gencives et tout ce qui maintient les dents. Quand on dit que les dents se déchaussent, c'est souvent parce qu'il y a un problème de ce côté-là. Là aussi, vous pourrez passer un test dans le Dr Good qui est en kiosque actuellement. Les amis, merci pour toutes ces informations. Merci à nos chers auditeurs de nous suivre tous les dimanches et nous nous retrouverons bien sûr dimanche prochain à 9h15 et avec un immense plaisir. Passez une bonne semaine.
Au revoir dimanche.
Michel Simès sur RTL. Ça va beaucoup mieux, l'hebdo.